On va parler réforme des collèges en compagnie de Catherine Piécuche, donc secrétaire départementale de la FSU, hein, la Fédération syndicale unitaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc ben, cette fameuse réforme qui fait beaucoup débat en ce moment. Il y a un mouvement qui est organisé demain, jeudi 11 juin, par les organisations syndicales, donc qui appelle à poursuivre et amplifier la mobilisation par une journée nationale de grève, donc demain. Rapidement, on peut peut-être faire un petit bilan de la précédente, comment ça a été perçu et comment ça a marché?
La précédente, donc, c'était le 19 mai, à l'appel de quasiment la même intersyndicale. C'était une journée qui a été très réussie, malgré la campagne de communication du gouvernement et de certains grands médias généralistes qui ont essayé de faire passer cette journée pour une journée en demi-teinte, alors que les taux de grévistes étaient très importants, très majoritaires, c'est-à-dire au-delà de 50% dans la grande majorité des établissements, et avec une manifestation régionale à Lille qui a compté près de 2000 manifestants. Donc pour nous, c'était vraiment un vrai succès. Et donc, il y a eu entre-temps, la semaine dernière, donc un appel à réunion publique, réunion avec les parents, réunion dans les établissements, pour maintenir le débat sur la question. Demain, nouvelle journée, mais ça ne s'arrêtera pas là, puisque d'ores et déjà, demain soir a lieu une nouvelle intersyndicale nationale qui décidera des suites, y compris à partir de la rentrée de septembre.
Alors, il y avait également aujourd'hui un groupe de travail qui était prévu, une rencontre avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que vous avez quelques informations à nous communiquer? Comment ça s'est passé avec les syndicats?
Eh bien, ça s'est mal passé, au point que les syndicats ont décidé de quitter la réunion, puisque l'objet de la réunion, les syndicats l'avaient bien précisé au départ, c'était de pouvoir remettre à plat au moins un certain nombre de points qui n'avaient pas été définis au préalable, mais ils attendaient un geste de la part de la ministre, geste qui n'a pas eu lieu. Et donc, les organisations syndicales ont décidé de quitter cette parodie de concertation.
Si globalement, on regarde un peu cette réforme, est-ce qu'on peut dire qu'elle est très technique, enfin un peu plus technique que pédagogique sur le papier, on va dire?
Elle est technique dans la mesure où elle apparaît compliquée, surtout quand on n'est pas dans le monde de l'éducation nationale, mais même quand on y est. Il y a beaucoup d'éléments de chiffres, de choses qui changent, d'organisations qui changent et qui sont difficiles à comprendre. Mais c'est une réforme qui, au-delà de cet aspect technique un petit peu opaque, est en fait une réforme politique et une réforme économique. Une réforme politique d'abord parce que c'est une réforme qui va abandonner un grand nombre d'élèves, notamment les élèves moyens, les élèves en difficulté, contrairement aux objectifs qui sont fixés et avancés sans arrêt depuis deux mois par le ministère. Cette réforme, elle ne va pas du tout diminuer les inégalités, elle va au contraire les creuser. Et c'est une réforme économique aussi, parce que c'est une réforme qui va permettre de faire des économies. On va le revoir en détaillant un petit peu les choses, notamment parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui disparaissent, et puis parce que les horaires des disciplines diminuent aussi. Et quand on sait que faire diminuer d'une heure, par exemple, une discipline, ça fait économiser 1000 postes au niveau national, on comprend vite à quel point cette réforme va permettre de faire des économies sur le dos des élèves.
Bon, on a l'impression un peu que l'État réforme plus qu'il ne forme. Il y a déjà eu beaucoup de réformes dans l'éducation nationale, mais apparemment, il n'y a pas vraiment de bilan.
Ben non, justement, c'est une vraie question. Avant, normalement, d'engager une nouvelle réforme, il faudrait faire le bilan des réformes qui ont été mises en place précédemment. Pour la réforme du lycée qui a été mise en place par le gouvernement Sarkozy, et c'était sous le ministre Darcos, les organisations syndicales, une grande partie de celles qui appellent demain, demandent depuis 2012 un bilan. Le bilan n'a jamais été fait. On comprend aujourd'hui pourquoi, puisque la réforme du collège que le gouvernement voudrait mettre en œuvre reprend pour une grande partie tous les travers, toutes les erreurs de cette réforme du lycée. En ce qui concerne le collège, il n'y a pas eu de réforme en tant que telle depuis assez longtemps. Il y a eu la réforme du socle en 2005, puis il y a eu un certain nombre d'aménagements dans l'organisation des enseignements au fur et à mesure. Mais de toute façon, aucun bilan, effectivement, vous avez raison, n'a jamais été fait sur ces modes de réorganisation. Et il faut voir aussi qu'au collège, beaucoup de dispositifs qui existaient pour les élèves en difficulté ont été supprimés. Alors là, c'était essentiellement par le gouvernement précédent pour faire des économies.
Cette réforme, évidemment, elle est nécessaire. Selon vous, comment vous la voyez-vous, cette réforme, par rapport à ce qui est proposé ?
Nous à la FSU, mais pour l'ensemble des organisations syndicales, enfin presque toutes les organisations syndicales qui appellent demain, pensent qu'il faut une réforme. Effectivement, il faut une réforme pour résoudre les inégalités scolaires et pour résoudre les difficultés dans lesquelles se trouvent les élèves. Alors il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut réfléchir. Il y a bien sûr les leviers au sein même du collège, mais il ne faut pas oublier, et ça on n'en parle jamais, ces derniers temps on en a très très peu entendu parler, il y a tout le contexte économique et social. Si de plus en plus d'élèves ont des difficultés, c'est bien parce qu'il y a une crise qui est énorme, qui a des conséquences sociales énormes pour les élèves, et que ça a des conséquences sur les apprentissages. Quand on est prof dans la vraie vie, moi je suis une vraie prof, eh bien on s'en rend compte tous les jours, on voit la situation se dégrader et on voit comment les élèves ont des difficultés à se concentrer sur leur travail parce qu'il y a beaucoup de soucis à la maison, comment les élèves ont quelquefois pas les conditions matérielles de pouvoir faire leur travail. Donc il y a tout cet aspect-là. Après, au niveau de l'organisation des enseignements, ben, il y a des choses qui ont fait leur preuve dans beaucoup de systèmes scolaires, y compris en France quand ça a été testé. C'est d'alléger les classes, parce que ça, on n'en parle jamais non plus. On nous parle toujours, par exemple, du modèle nordique ou du modèle finlandais, mais on ne nous dit jamais qu'il n'y a pas plus de 8 élèves par classe, par exemple, notamment chez les petits. On n'est pas dans ce cas-là ici. La première chose, c'est les effectifs. Diminuer d'une manière générale la taille des classes, et puis de pouvoir travailler à plusieurs reprises dans la semaine, dans chaque discipline, par petits groupes, par demi-groupes, par tiers de groupes, etc. Parce que ça, on s'en rend compte quand on a la possibilité de travailler en groupe à taille vraiment très réduite, on fait des petits miracles. Donc, mais ces éléments-là, on nous dit toujours que, ah ben oui, mais vous savez, c'est des moyens, c'est toujours la même chose que vous proposez. Ben oui, mais c'est la même chose parce que ça marche, simplement.
On va voir un peu en détail ce qui vraiment pose problème. D'abord, en commençant par les langues et cultures de l'Antiquité, ce qu'on appelle le latin, le grec, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, puisque c'est ce qui est arrivé en premier, ce que les gens ont vu en premier. C'est l'un des points les plus critiqués de cette réforme. Vous pouvez me dire deux mots là-dessus ?
Oui, parce que les langues anciennes et puis les langues vivantes, elles sont les deux grandes perdantes, même si toutes les disciplines sont perdantes. Je ne voudrais pas faire de catégorisation là-dedans, mais elles sont vraiment très très perdantes dans la réforme du collège. Contrairement encore une fois à ce que dit la ministre, il n'y aura plus d'enseignement du latin, il n'y aura plus d'enseignement du grec. La seule possibilité qui a été réintroduite suite à la mobilisation, c'était de faire une découverte en fait de la civilisation gréco-latine à travers un enseignement interdisciplinaire. On est loin de la discipline, on est loin de ce qui est enseigné aujourd'hui. Donc ça n'a absolument rien à voir. On sera très loin du niveau de connaissance qui est acquis aujourd'hui à la fin de la troisième. En ce qui concerne les langues vivantes, alors elles paient un lourd tribut hein, dans cette réforme du collège. Alors on a beaucoup entendu parler de la suppression des classes bilingues. Ce sont des classes où les élèves apprennent dès la sixième. Alors des classes, c'est d'ailleurs pas le mot exact, ce sont des sections. C'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, les élèves sont issus de différentes classes. Je vais y revenir parce que c'est un élément important dans le débat politique. Les sections européennes, de la même façon, sont supprimées. Et il y a une menace sur toutes les LV2, autres que anglais et espagnol. Alors, je reviens sur le mot section, qui peut paraître un petit peu technique, hein, pourquoi section et pas classe. Parce que l'argument avancé par la ministre pour supprimer les sections bilingues et les sections européennes, c'est de dire que ce sont des classes élitistes, où les élèves seraient triés sur le volet. Dimanche, au congrès du PS à Poitiers, Madame la ministre a même osé dire que les élèves étaient triés sur leur bonne mine, ce qui est proprement scandaleux. Et accréditant l'idée auprès de la population que tout le monde n'aurait pas droit à ces classes-là et qu'on ferait une sélection. Ce n'est pas le cas. Alors je ne dis pas qu'ici ou là, il puisse y avoir eu, à certains endroits, dans certains établissements, notamment en centre-ville parisien, ou dans certains autres centres-villes, ça peut arriver, hein, on est les premiers à le dénoncer, mais dans la grande majorité des cas, les élèves sont issus de tous les milieux sociaux, et ce sont des sections justement qui permettent aux élèves d'approfondir leur culture de langue étrangère, et donc d'avoir une meilleure connaissance. C'est eux qui le demandent, hein, et donc personne ne les oblige, et tous les élèves qui souhaitent peuvent prétendre entrer dans ces sections. réduire, enfin supprimer définitivement toutes ces sections-là, ça met en cause beaucoup de dispositifs. Hein. Ça met en cause le bac mention européenne, ça met en cause tous les bacs internationaux, hein, le bac, la bibac pour l'allemand, le bachibac pour l'espagnol, mais ça existe dans la plupart des langues. On peut se demander effectivement en 2020 ce que deviendront ces bacs-là. Alors la deuxième grande chose qui concerne les langues vivantes, c'est que la ministre a annoncé à fort renfort de publicité qu'il y avait un progrès, puisque la LV2 serait introduite à partir de la cinquième, à raison de 2h30 par semaine, et en disant que d'une certaine façon c'était la bilingue pour tous. C'est pas vrai du tout, puisque au niveau des horaires on s'y retrouve absolument pas. La bilingue c'était 3h en sixième, 3h en cinquième, en quatrième et en troisième. Donc on arrive à 12h sur l'ensemble du cursus. Là on est à 7h30 sur l'ensemble du cursus. Et il y a deux autres problèmes. Le premier, c'est que toutes les études internationales et toutes les études de chercheurs en sciences de l'éducation montrent qu'à moins de 3 heures par semaine, on ne peut pas apprendre une langue vivante. On ne peut pas l'apprendre, simplement. Il faut au moins 3 heures au départ pour commencer. Tous les pays européens, tous nos voisins européens, commencent pendant plusieurs années à 4 ou 5 heures par semaine. On est le seul pays européen à avoir si peu. Après, on viendra déplorer le niveau des élèves.
Ouais, alors si on revient justement sur la suppression option latin et grec, la ministre, elle affirme qu'elle veut démocratiser l'étude du latin et du grec et elle dit clairement que les options telles qu'elles existent aujourd'hui ne concernent que 18% des élèves.
Ce sont les élèves qui choisissent aussi. Il y a peut-être 18% des élèves qui choisissent aujourd'hui. Ça, c'est une moyenne et c'est toujours sujet à caution, les moyennes, puisque ça cache des réalités extrêmement différentes. Nous, sur l'Académie de Lille, on a fait un petit peu une enquête depuis 2 mois et on a beaucoup, par exemple, de collèges classés éducation prioritaire où on a un tiers des élèves, voire plus. Mais au moins un tiers des élèves qui suit une option de latin ou de grec. Donc l'idée que Madame la Ministre veut accréditer avec ces 18%, c'est de dire que ce sont 18% de privilégiés. C'est ça qui est derrière. Or, nous qui sommes sur le terrain, nous savons bien que non, ce ne sont pas 18% de privilégiés, ce sont 18% d'élèves qui ont choisi, simplement.
La nouveauté qui est issue de cette réforme et qui pose également problème, ce sont les EPI, les EPI comme on les appelle, enseignement pratique interdisciplinaire. Pouvez-vous expliquer ce que ça signifie et en quoi leur application vous semble insuffisante ?
C'est surtout qu'on est contre, déjà au départ, puisque ces EPI, donc ces enseignements pratiques interdisciplinaires, comme le nom ne leur dit pas tellement, ce n'est plus de la discipline. Alors on nous fait croire que c'est de l'interdisciplinaire. Normalement, de l'interdisciplinaire, ce serait vraiment croisé de disciplines, de façon élaborée, de façon préparée. Là, ce n'est pas du tout le cas, puisque le ministère a défini un certain nombre d'objets, d'études, au nombre de 8, qui devront être traités entre la 5e et la 3e, à raison de 2 par an. Ni les collègues ne pourront choisir ce qu'ils voudront faire, puisque ce sera en fonction de l'ajustement des moyens dans les établissements, et les élèves non plus ne pourront pas choisir quelle année ils feront quoi. Sur l'ensemble de la scolarité, ils devront faire les 8, mais ne pourront pas choisir précisément année par année. Pour nous, c'est du grand bricolage, du grand n'importe quoi, on peut même dire des ateliers gommettes, parce qu'il n'y a pas de contenu dans ces épis. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas une volonté d'éduquer, d'élever les élèves vers justement le goût de la connaissance. On est vraiment sur un détournement du sens des missions de l'éducation nationale pour occuper les élèves. C'est vraiment faire de l'occupationnel et faire croire aux élèves et à leurs familles que cet occupationnel est finalement aussi important que leur discipline et que s'ils ne réussissent pas dans les disciplines fondamentales, c'est pas très grave si dans les épis ça va, alors que les épis en soi ne leur apporteront rien pour leurs connaissances, pour leur apprentissage et pour leur futur avenir d'hommes, de citoyens, de salariés.
Si on prend un exemple, physique, SVT, technologie, ce sont des épis donc dans lesquels les élèves seront amenés à réaliser des projets collectifs qualifiés de concrets, entre guillemets, hein, par la documentation du ministère. En fait, ça se résume un peu à ça. D'autres, évidemment, matières, à mon avis. Hein.
Oui, tout à donc fait. Toutes les matières sont concernées par les épis, avec toujours l'objet, l'idée de produire quelque chose de concret. Donc ça peut être une cabane, hein, ça peut être... on plaisante souvent entre nous, entre collègues, mais par exemple, puisque la ministre proposait un épi langue ancienne, on peut très bien imaginer que de fabriquer une toge en feutrine pourrait être l'objet ultime de la réalisation de cet EPI. On voit bien qu'on est vraiment dans du détournement de la mission d'éducation nationale.
Puis il y avait cette fameuse, évidemment, marge d'autonomie hein, pédagogique de 20%, qui sera augmentée de 20%. La possibilité de suivre l'EPI, évidemment, dépendra des moyens accordés par le chef d'établissement. Et à ce moment-là, on peut parler peut-être d'un déséquilibre inégalitaire.
Oui, alors en revenant justement peut-être sur le lien entre les épis et puis les disciplines, parce que une chose qui n'est jamais dite, qui n'est jamais mise en avant, et au contraire même qui est masquée, c'est que toutes les disciplines perdent en horaires. Elles perdent soit de façon brute, même dans l'affichage du ministère, mais cet affichage du ministère ne dit pas, et masque donc, le fait que les horaires des épis vont être pris sur les disciplines. Et comme on ne sait pas sur quelle discipline ça va être pris, ça veut dire que dans chaque collège, les élèves auront un horaire différent, discipline par discipline. Il n'y a plus d'éducation nationale au sens strict du terme. Aujourd'hui, par exemple, en langue vivante 1, en 6e, les élèves ont 4 heures partout en France. Eh bien, c'est terminé. Il n'y a plus de référence à ça. Il y a l'obligation d'avoir une sorte de quota sur l'ensemble de la 5e, de la 4e, de la 3e. Et encore en déduisant les épis de ça, donc on voit bien que selon les endroits, eh bien, l'éducation fournie aux élèves ne sera pas la même, les contenus fournis aux élèves ne seront pas les mêmes. Et ça, c'est un signe d'inégalité extrêmement grave.
Alors évidemment, les principaux concernés sont les élèves et puis aussi les parents. Comment on leur explique ces choses-là qui forcément ne sont pas censées tout à fait comprendre à chaque fois. Comment essayer de leur faire comprendre justement que cette réforme, elle n'est pas si bonne que ça?
Mais je crois qu'on a nous aussi à faire un gros travail de pédagogie en direction des parents. Bon, il faut savoir que dans les conseils d'administration qui ont eu lieu au mois d'avril, il y en a toujours un au mois d'avril, le conseil d'administration dans les établissements, beaucoup de motions ont été présentées, beaucoup de parents ont signé ou ont voté ces motions contre la réforme du collège, et à tel point que même les représentants de la FCPE, qui nationalement approuvent la réforme, ne font pas un front uni pour cette réforme. Dans le Nord, par exemple, la FCPE s'est désolidarisée de la direction nationale. Dans le Pas-de-Calais, c'est le contraire, mais ce qui n'empêche pas que sur le terrain, dans les établissements, beaucoup de parents, y compris des représentants FCPE, nous disent leur désaccord profond. On a des retours de parents qui nous disent qu'ils ne reprendront pas leur carte à la FCPE à la rentrée, par exemple, parce qu'ils sont en désaccord profond et qu'ils n'ont pas réussi à faire entendre leur position. Quand on explique concrètement aux parents d'élèves, les parents comprennent très bien qu'il y a un danger grave pour leurs enfants, un danger avec la perte de la diminution de l'horaire, avec la suppression. Alors on a parlé du grec, des langues vivantes, des sections euro et puis bilangues. On parle moins de la DP3, la découverte professionnelle 3.
Alors, ça signifie quoi exactement ça?
Découverte professionnelle 3 heures par semaine en fait, qui est une option, elle aussi. Qui est proposée à tous les élèves qui le souhaitent, qui est souvent prise par les élèves qui envisagent plutôt d'aller vers le lycée professionnel, mais pas seulement. Il y a des élèves qui sont curieux et qui ont envie d'avoir 3 heures par semaine, une partie de leur scolarité au collège, une découverte du monde de l'entreprise et de la vie professionnelle. C'est par définition une option qui n'est absolument pas élitiste. Et la ministre la supprime également. Donc, si on nous dit que cette réforme est faite pour aider les élèves en difficulté, pour résoudre les inégalités scolaires, eh bien, rien qu'avec cet élément-là, je pense qu'on comprend qu'il y a un vrai message de manipulation en direction de l'opinion publique.
Concrètement, cette réforme, normalement, devrait être officiellement applicable à la rentrée 2016. Quelles sont les différentes démarches que vous allez en faire encore pour essayer justement qu'elle soit non pas supprimée, parce que là ça me paraît un peu impossible, mais tout au moins qu'il y ait un accord ou des discussions qui puissent aboutir à quelque chose d'à peu près concret?
Ben nous, on pense qu'on peut toujours retirer une réforme. C'est une question de rapport de force. Le rapport de force, il est en train d'être construit. Même quand le décret est signé, le dernier cas en date, c'était le CPE en 2006. Le décret avait été signé et finalement, le CPE a été abrogé. Donc on a d'autres exemples dans l'histoire récente. Concrètement, on a une marge de manœuvre jusqu'à janvier 2016 à peu près, puisque la préparation de rentrée dans les établissements scolaires se fait entre janvier et février. Et les dotations horaires arrivent à ce moment-là. Donc il va bien de soi qu'on ne va pas attendre le mois de décembre. C'est pour ça qu'il y aura des actions encore d'ici la fin de l'année. Comme je vous l'ai dit, il y a une nouvelle intersyndicale demain en fin de journée qui va aussi envisager des possibilités d'action éventuellement au niveau des examens. Donc ça, c'est dans le paysage, hein, ce n'est pas, c'est ni exclu, ni acquis, hein, ça va être discuté à nouveau. Il y aura probablement des actions continues pendant les vacances d'été, et puis dès la rentrée, il y aura de nouvelles actions qui vont être décidées, et notamment avec la perspective sur septembre, fin septembre ou début octobre, d'une grande manifestation nationale un week-end, pour pouvoir notamment rallier tous les parents qui ne sont pas d'accord avec cette réforme-là et qui ont bien compris la nocivité de cette réforme pour l'avenir de leurs enfants.
L'action dans la région pour demain se passe du côté de Lille.
Oui, tout à fait.
Alors, peut-être en parler un peu pour voir comment ça se passe, de où ça part, à quelle heure.
Alors, demain, c'est une manifestation régionale. Il y a un seul endroit, c'est tout le monde au même endroit, à 11h, porte de Paris, à Lille. J'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à nous rejoindre si vous en avez la possibilité. Donc, une manifestation qu'on espère aussi réussie que la fois dernière.
Catherine Piécuche, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes secrétaire départementale de la FSU, la Fédération syndicale unitaire.
Merci à vous.